بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أو enfants de Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, c'est-à-dire vos habits, et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Nous avons ce soir lu la sourate Al-A'raf, et donc demain, incha'Allah, nous allons lire donc le 10e juz wa'alamu, et demain on aura terminé le thuluth, le tiers du Coran. Et demain, incha'Allah, ce sera le dernier jour également où on fait un juz et quart. À partir de lundi, on passe en mode un juz par jour, donc ça va se terminer un petit peu plus tôt, à partir du 11e juz, ya'tadhiruna ilaykum, comme on le fait tous les ans. Le verset qu'on a lu, vous avez compris, les questions de parure, d'habillement, et les questions de nourriture, et les questions de boisson. Trois choses permises, trois choses qui font partie des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde, et il y a une interdiction, c'est la limite. Allah nous donne l'autorisation, Allah nous encourage. Tout d'abord concernant la parure et les vêtements quand on vient dans les masajid. On va lire les commentaires d'Ibn Kathir. Deuxièmement, il fait mention du fait de manger et de boire. Ce sont là des actions qu'on appelle mubah, qui sont licites, qui sont autorisées. Et cela constitue des bienfaits, comme on a dit, de la part d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, Allah Rabbul Izza fixe la limite. Voilà tout ce qu'il faut. Attention, pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui font des excès. Ibn Kathir, rahimahullah, donne comme explication de ce verset, premièrement concernant les vêtements. Alors il faut savoir que il y avait une habitude, une tradition chez les Arabes avant l'islam qui était un petit peu particulière concernant les habits, principalement pour accomplir le tawaf. Il y avait des traditions vraiment, j'allais dire presque préhistoriques, presque barbares. C'était une habitude, il y avait certaines restrictions, il n'y a pas besoin de les citer, parce que c'était des coutumes très étranges chez les Arabes concernant le fait de venir près de la Kaaba. Par exemple, les Quraysh imposaient aux visiteurs d'acheter des vêtements qu'ils vendaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'une personne ne pouvait pas se présenter devant la Kaaba avec les vêtements qu'il porte dans son village, dans sa tribu. Il y avait un genre d'embargo, il y avait un système économique injuste qui était imposé par les Quraysh. Bien sûr, on était dans l'époque de Al-Jahiliyyah, de l'ignorance. Il y a juste à se rappeler ce que les Quraysh, ce que les Arabes étaient prêts à faire avant l'islam, pour comprendre que leur mode de vie était vraiment un mode de vie dans la décadence totale. Et ça nous fait réaliser encore plus la complexité de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les personnes qui pouvaient brûler les femmes veuves, qui pouvaient enterrer les petites filles vivantes, qui buvaient de l'alcool à longueur de journée, qui se prosternaient devant des pierres, des personnes qui avaient atteint un degré de barbarie parfois, hein, on pourrait dire, de ce niveau, ils étaient censés devenir les meilleurs des hommes. Une mission très compliquée, oui ou non? Une mission extrêmement complexe, mais le prophète alayhi salatu wassalam l'a accomplie. Et il y a des personnes qui sont sorties de Minat Volumat et la Nour de l'obscurité pour devenir des modèles pour l'humanité. Chaque sahaba, à part Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, qui même à l'époque pré-islamique n'avait jamais consommé d'alcool et ne vouait aucun culte aux asnam, aux idoles, mis à part lui, la plupart des sahaba, ils avançaient selon le rite des jahiliyyah, des ignorants de la période pré-islamique. Et ces personnes-là, lorsqu'ils ont enfin vu la lumière et la vérité chez le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont connu un changement radical de leur vie pour devenir des exemples, des modèles pour l'humanité. Donc, par rapport à cela, l'ordre est donné de s'habiller quand ils se rendent auprès de la Kaaba et des lieux de culte. Et en commentaire, on va dire un peu décalé, Ibn Kathir, rahimahullah, il dit également que ce qu'on peut retenir de ce verset, « Annahu yustahabu at-tajammulu 'inda as-salah », il est mustahab, il est souhaitable qu'une personne essaie de mettre les habits les plus présentables, les meilleurs des habits, lorsqu'il vient accomplir la salat. Et là, on parle des lieux de culte, inda kulli masjid, dans un lieu de culte. Voilà, siyama, et puis, précisément, yom al-jum'a ou yom al-eid, bien sûr, le vendredi, le jour du eid. Et d'une façon générale, le fait de savoir que lorsqu'on vient à la masjid, on vient de la maison d'Allah, et qu'on se présente devant Allah, azza wa jal, ça fait donc partie de l'éthique des adab du croyant, que de mettre des habits propres, corrects, décents. Bien sûr, dans l'ordre, tout d'abord, les habits doivent couvrir le satar, le aura, comme on dit, doivent couvrir les parties du corps. Les habits ne doivent pas être, comme on dit, mujassim, ne doivent pas être trop près du corps, à éviter les collants, à éviter les vêtements qui sont un peu trop proches du corps, qui laissent les formes apparaître. Ce n'est pas uniquement pour les femmes, même pour les messieurs. Bien sûr, même pour les messieurs. Très souvent, on se dit qu'il faut que les femmes portent des vêtements amples. Mais les messieurs aussi, si on met des pantalons, des joggings de sport, et que toute la forme des cuisses et le haut de la cuisse, c'est moulé, ce n'est pas bien. C'est contraire à l'éthique du croyant, au adab, lorsqu'on vient à la masjid. Bien sûr, des vêtements qui ne doivent pas être transparents non plus. Il y a des fois, on voit des personnes qui portent des, comment on appelle ça, des kandou, hein, des thobes, des kafni, peu importe comment on appelle. Mais le tissu est presque transparent, même si en dessous il y a un pantalon et tout, mais question de adab, d'éthique, de présentation, il faut essayer de faire de son mieux. Ibn Kathir, rahimahullah, il rappelle également que وَطِّيب لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَ. Il dit que le fait de se parfumer, ça fait partie également du azina. Azina, c'est le mot qui revient à khudu zinatakum, sans rapport avec zina, d'accord? C'est pas du tout la même racine. Azina, c'est la beauté, c'est ce qui te permet de t'embellir. Donc le fait de se parfumer fait également partie des adab pour la fréquentation de la masjid. وَالسِّوَاكُ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ ذَلِكَ, également l'utilisation du siwak. Donc, les trois règles qu'on retient, selon ce que Ibn Kathir nous dit, des vêtements propres, se parfumer et l'utilisation du siwak. Vous voyez comment est-ce que l'utilisation du siwak est importante, et d'une manière générale, c'est le fait qu'il n'y ait pas de mauvaise haleine qui se dégage de la bouche. Ça, c'est très important. Et par rapport à ça, le prophète Ali, salatu wassalam, a interdit à une personne qui mange deux catégories d'aliments de se présenter à la masjid. C'est quoi ces aliments? Les oignons et l'ail. D'accord? Alors que si on analyse d'autres hadiths qui mettent en avant l'importance de la salat, le prophète dit une fois qu'il serait prêt à aller sévir gravement les personnes qui délaissent la prière en congrégation sans raison valable alors qu'ils habitent pas loin de la mosquée. Et là, le prophète dit que ces personnes ne doivent pas venir à la masjid. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une odeur désagréable qui sort de la bouche de la personne, c'est un manque de respect pour la masjid, et cela cause préjudice au malaïka. Ça gêne les malaïka, parce que quand on est dans une masjid, il faut être conscient qu'on n'est pas seul. On est seul dans notre monde. Il y a plusieurs mondes. Mais dans le monde des humains, ben, on est entre nous. Il y a ce que vous voyez. Mais après, il y a d'autres mondes parallèles qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Entre autres, le monde des malaïka, ils sont présents. D'ailleurs, quand le imam dit Amin, et que la personne également a la possibilité de dire Amin, Rufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lorsque les Amin se coïncident, et c'est le cas normalement quand on fait la prière de l'imam, ben les péchés sont pardonnés. Où sont ces anges qui sont témoins, et ainsi de suite? Ils sont présents. Nous, on ne les voit pas. Donc, le fait d'avoir une odeur désagréable, ça dérange les malaïka, et donc ça m'a interdit à celui qui consomme de l'ail et de l'oignon de venir à la masjid. Ça nous fait comprendre que le adab, c'est quelque chose de très important dans la maison d'Allah, azza wa jal. Maintenant, si par analogie on essaie de voir ce qui peut être préjudiciable de la fréquentation de la mosquée concernant les habits, concernant le parfum, concernant les odeurs, mimbab aoula, on réalise encore plus que le fait de perturber le déroulement de la salat, soit de la salat du imam qui officie, ou même de la salat de personnes qui vont prier après, par des personnes qui bavardent, qui parlent fort, et ainsi de suite, qui rigolent, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Si je suis à l'extérieur de la masjid, je suis en train de parler, raconter des histoires, et même si la salat elle est terminée, mais il y a des gens qui sont en train de prier, les sunan, les nawafil, et que la voix porte préjudice, c'est un volm, c'est quelque chose qui est très mauvais, et on doit faire le maximum d'efforts pour protéger l'intégrité de la masjid et pour permettre aux gens de faire leurs actes d'adoration comme il le faut. Et parmi les conseils du prophète alayhi salatu wassalam concernant les vêtements, pour les messieurs, la meilleure des couleurs, c'est le blanc. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a conseillé. Après, vous savez, il y a Il y a pas mal de débats, il y a pas mal de débats parfois très passionnés concernant les vêtements. Quels sont les vêtements qui sont autorisés? Est-ce que il y a un vêtement traditionnel? Non, on ne va pas rentrer dans ces histoires. Le plus important, c'est que le awra soit couvert et que ce soit des vêtements qui sont amples, d'accord, comme il le faut. Et maintenant, si on a des vêtements qui sont un peu plus longs et tout, comme les thobes et tout, on va dire c'est encore mieux. Pareil pour le bonnet. Il y a parfois une approche un petit peu exagérée, un peu trop rigoriste. Si une personne entre dans la masjid sans bonnet, il y a peut-être des gens qui sont prêts à lui dire, sortez, retourne chez toi ou va prendre un bonnet. Il faut faire attention de ne pas offenser les gens. Vous savez, plutôt, il est mieux qu'une personne prie, mais avec dévotion, il n'a pas son bonnet peut-être, plutôt que de casser le cœur d'un croyant. Tu vas lui dire une parole désobligeante qui va le vexer, va dire que si on n'a pas de bonnet, il reste sous le cas, voilà, il ne vient pas comme ça ici la mosquée, c'est pas supermarché et tout. Parfois, il y a des personnes, surtout des personnes âgées, hein, qui sont très proches des traditions, et pour eux, ce serait un crime. C'est presque un kabir, amen al-kabair, un péché majeur qu'une personne se présente sans le bonnet. Mimba, d'une façon générale, prier avec le bonnet, c'est mieux que de prier sans le bonnet. Mais on doit faire attention aux sensibilités de ne pas vexer les gens. Parce qu'après, parfois, il peut y avoir l'effet contraire. Moi, j'ai déjà vu une personne dire qu'il ne vient pas à la masjid parce qu'il n'a pas son bonnet. Ou alors, il ne vient pas à la masjid parce qu'il n'a pas, il n'a pas son kandou, son kafini, son thob. Il a un pantalon jean, un t-shirt. Il dit, il ne peut pas venir à la mosquée. Qui c'est qui a dit qu'on ne peut pas prier en chemise, pantalon? Qui a dit ça? Vaut mieux qu'il vienne, qu'il prie avec sa chemise, son pantalon, plutôt qu'il prie chez lui. Vous voyez qu'il y a un juste milieu. Si on pousse, on va trop dans l'extrême, dans l'extrême négatif, on dit que peu importe la tenue, on vient comme on s'habille comme on veut, il y a un manquement dans l'éthique, dans le adab, dans le respect de la masjid. Maintenant, si on pousse trop loin aussi, il y a une exigence trop pointilleuse concernant l'habillement, on risque de se trouver dans des situations où les gens, s'ils n'ont pas l'habit conforme, entre guillemets conforme, ils ne viennent pas à la mosquée, et c'est un extrême qu'on ne veut pas non plus. Maintenant, je pose une question. Il vient de faire ses courses et tout. Il sait qu'il n'a pas pu prendre un bain, qu'il transpire. Il fait quoi? Il vient à la mosquée? Il vient pas? Il vient, bien sûr qu'il vient. On va pas dire à quelqu'un, non, tu sors. Ben non, c'est au cas par cas. Quelqu'un sort, il vient de faire son footing, il vient de jouer un match là-bas en face. Ben là, quand même, il faut pas abuser non plus. Il faut pas abuser parce que si tu rentres, l'imam ici, il se trompe tout de suite dans ça-là, dès que tu rentres à la mosquée. Donc, il faut pas abuser. Il y a un juste milieu. Je veux dire qu'il faut pas non plus se fixer trop de contraintes. Parce qu'après, il y a un waswasa de shaitan. Et ce waswasa va tellement loin que shaitan pourrait même un jour te dire que toi, ton cœur est sale, tu fais des péchés, tu commets des choses qui ne sont pas bien. Comment tu peux te présenter dans la mosquée devant Allah? Tu serais un hypocrite. Vaut mieux que tu laisses les gens pieux venir à la mosquée. Ce n'est pas du tout le discours qu'on veut. Si les gens qui sont parfois de des péchés, ils finissent par se persuader, ou être persuadés plutôt par Iblis, que par rapport à ces péchés, tu n'as pas le cran, tu n'as pas le niveau spirituel pour te présenter devant Allah, c'est que Shaitan t'a trompé, il t'a eu. Donc il ne faut pas non plus tomber dans cet excès. On fait tout ce qu'on peut pour se présenter de la meilleure des façons devant Allah Azza wa Jalla. On verra dans les 10 derniers jours, la dernière décade, comment est-ce que les pieux prédécesseurs, c'est ce qu'on répète, ce discours tous les ans, comment est-ce que les pieux prédécesseurs, ils se paraient de leurs plus beaux habits pour la prière de la nuit. Ils mettaient des vêtements spécifiques, ils mettaient le parfum et ainsi de suite, parce qu'ils se présentent devant Allah Azza wa Jalla. Puis l'exemple qu'on donne, c'est l'exemple très classique. Vous avez un rendez-vous avec quelqu'un d'important, donc vous habillez bien. Bon, il n'y a pas d'analogie entre rencontrer une créature et rencontrer Allah. Mais le fait de mettre des vêtements propres, de se parfumer et tout, ça prouve qu'on donne de l'importance à ce qu'on va faire. C'est pas quelque chose que bon, on le fait comme ça rapidement. On donne de l'importance. Il y a une préparation psychologique. Il y a un accompagnement spirituel. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir plus de dévotion, Inch'Allah, dans l'accomplissement de la salah. Ensuite, ce qui nous intéresse, nous intéresse beaucoup même. Wakulu washrabu. Et là-dessus, il n'y a pas de divergence. Wakulu washrabu, c'est pas de divergence entre les madahib, dans les écoles de jurisprudence. Tout le monde est d'accord. Mangez, buvez. Là-dessus, on dit khalas, sami'na wa ta'na. Là-dessus, il n'y a pas besoin de long discours. Mais ce qui est important, ne commettez pas d'excès. Voilà, tous les faux. Pas d'excès. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous rappelle Inna al-mubadhirina kanu ikhwan al-shayatin. Ça va dans. Et là, c'est un peu plus poussé comme sens que les personnes qui font du gaspillage, ce sont les frères du diable, ce sont les frères des shayatin. Le fait d'avoir à manger, le fait d'avoir de l'eau pour boire, ce sont des bienfaits de la part d'Allah. Là, on a une bouteille, on peut boire, si quelqu'un a soif, peut boire. On a des robinets, mais dans certains endroits, il n'y a pas besoin d'aller pays en Afrique, même aux îles Comores. Il y a des fois où dans des mosquées, il n'y a pas d'eau courante, oui ou non? pour avoir de l'eau, il faut aller loin. C'est-à-dire que tu ouvres le robinet, tu as de l'eau qui coule. Ça, c'est un ni'ma de la part d'Allah. Et de l'eau pure. Tu peux faire tes ablutions, tu peux boire. Ça, c'est un ni'ma de la part d'Allah. Donc, des fois, on voit des gens qui font les ablutions. Là, on sort du cadre un peu du verset. Mais on reste dans cet esprit. Il y a des gens, parfois, peut-être pas trop ici. Mais dans d'autres quartiers, dans d'autres endroits, je vois ça. Les gens s'assoient, ils ouvrent l'eau très fort et ils parlent avec leur camarade à côté. Oh, tel match, Dimitri Payet l'a marqué, il gagne son gauche et tout, et tout, et tout. Et l'eau, il coule. En expliquant ce qui s'est passé la veille, tu as déjà gaspillé 2 litres, 3 litres d'eau. Ça, c'est haram. Ça, c'est un péché grave. On ne peut pas se permettre de gaspiller de l'eau ou, on parle d'autre chose, de la nourriture, quel que soit le bienfait qu'Allah nous accorde, on doit le prendre avec considération et se montrer reconnaissant. Et la reconnaissance, c'est bil-lisan, on remercie Allah, alhamdulillah. La reconnaissance, c'est utiliser ses bienfaits dans le droit chemin, mais c'est également de ne pas gaspiller, de ne pas dilapider le bienfait, parce qu'il y a des gens qui sont éprouvés par ça. Autant que nous, on a, alhamdulillah, en quantité, il y a des gens, leur épreuve de leur vie, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment à boire ou à manger. Et quand ils en ont, mashallah, ils font khadar, comme on dit, ils prennent vraiment considération. Vous savez, « La in shakartum la azidannakum » Tant qu'on remerciera Allah, Azza wa Jal, Allah nous accordera encore plus. Mais quand on fera preuve d'ingratitude, là, il faut faire attention. Et pour remercier Allah, parmi les conditions du remerciement, comme on l'a dit, les deux, mais entre autres, c'est également de ne pas gaspiller, de ne pas dilapider le bienfait. Et Ibn Kathir, rahimahullah, il relate l'opinion de certains pieux prédécesseurs, à travers « Okulu wa shabu wa la tusrifu » et ils disent « Jama Allahu tibba kullahu fi nisfi aya » Elle dit « Toute la médecine » Et l'essentiel de la médecine est réuni dans ce verset. Le fait de se modérer, là on a parlé du gaspillage, mais également dans la quantité qu'on consomme, pas d'excès. Ibn Kathir relate la vie de ses pieux prédécesseurs qui disent que ça, c'est la clé de la santé. C'est la moitié de la médecine, une grande partie de la médecine se retrouve dans ce verset. Le fait de ne pas manger de façon excessive et de ne pas boire de façon excessive, ça nous permet de protéger notre corps et notre santé. Regardez le nombre de maladies, et la plupart des maladies à notre époque ne sont plus en rapport avec la malnutrition. Il n'y a plus ça. Là, je parle du contexte réunionnais. Il n'y a plus personne qui est malade parce qu'il ne mange pas suffisamment. Au contraire, les maladies modernes, c'est parce qu'on mange trop. Trop gras, trop sucré, trop salé, et le nombre de pubs qu'on entend là-dessus, et c'est que il y a des bienfaits, mais on abuse de ces bienfaits. Et le prophète Ali, de toute façon, vous voyez comment, est-ce que même les conseils prophétiques, ça nous permet d'avoir un suivi concernant notre façon de vivre, de manger, de boire, notre mode de consommation. Parce qu'on doit faire très attention, on vit dans une société de consommation, où on nous pousse à acheter tout et n'importe quoi, et surtout, on nous encourage à consommer et à jeter ce qui est en plus et acheter encore le lendemain. Pour samedi, koulou, wa shabou, wa albisou, wa tasaddaqou. Pour samedi, manger, buvez, acheter des vêtements, donner l'aumône. Et ça, c'est un point qu'on va expliquer dans un instant, à condition qu'il n'y ait pas de gaspillage. Et, fa inna Allah yuhibbu an yara ni'matahu ala abdi. Allah aime voir les bienfaits qu'il a accordé à son serviteur. C'est-à-dire que si Allah nous a donné les moyens, ben on doit s'habiller correctement. Il n'y a pas de mal à avoir des vêtements d'une certaine valeur. Sans excès aussi, bien sûr. Mais dans chaque chose, il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu, ce serait incohérent qu'un jeune, et ça on en voit parfois, des jeunes qui n'ont pas trop les moyens pour payer les cotisations de la madrasa, mais c'est marrant, là ça ne me revient pas. Il y a juste la cause que je connais, ils mettent... Ralph Lauren, ils vont mettre, je ne sais plus, bref, il y a une autre marque qui est très à la mode, j'ai oublié, mais quand on regarde la personne, de la tête aux pieds, j'avais un élève comme ça, paye jamais. Passe un clôturier dans un autre quartier avant, paye pas la cotisation. On a tous compris, mais quand je le regarde, le jeune, il vaut 900 euros. Si je regarde, survêtement, Lacoste, le haut et le bas, les chaussures, les chaussettes, tout, il est tout en Lacoste. Ce qui est intérieur, on ne rentre pas dedans, mais je veux dire que c'est israf, c'est un gaspillage. Et je suis d'avis et je suis très ferme là-dessus, concernant l'éducation des enfants, n'entrez pas dans ce cercle vicieux. N'habituez pas les enfants à porter des vêtements de marque. Parce que s'ils mettent un nez dedans, s'ils font un premier pas vers ce que la société impose d'une certaine façon, c'est parti pour leur jeunesse pour tout le temps.
C'est-à-dire qu'il y a un certain code dans les collèges, dans les lycées, qui veut qu'on a telle marque de vêtements, ainsi de suite. Si le jeune ne porte pas, parfois il peut être considéré comme quelqu'un qui n'est pas in, comme un steak, comme ils disent. Donc on le met de côté. Et il faut faire en sorte que l'enfant se distingue par son intelligence, par ses qualités, par ce qu'il peut apporter, par sa personnalité. Ce n'est pas qu'il a de la valeur parce qu'il met un Lacoste ou parce qu'il met un Eden Park. Voilà, je cherche le mot. Eden Park. Ça a dépassé Lacoste, vous savez. Je voulais prendre une veste Eden Park, j'ai vu le prix, il dit Allah, Allah. C'est terrible. C'est le tiers d'un SMIC. Et il y a des jeunes qui mettent, je vois des jeunes, ils mettent Eden Park. Je dis, mais soit c'est des faux, soit ils ont des photocopies 3D, ou alors il n'y a plus la crise. On peut dire à nos politiciens, ça va, tout va bien, tout correct. Donc, non, il y a des exagérations. Et il faut surtout pas, il faut que les, je reviens à ce que je disais, il faut que les enfants, ils s'affirment par leur personnalité, par les valeurs qu'on les inculque, qu'ils se fassent accepter par ce qu'ils sont, et pas qu'ils se fassent accepter, excuse-moi mon frère, c'est pas par rapport à ton petit Lacoste, là, hein, tu peux le cacher, il faut pas qu'ils se fassent accepter par ce qu'ils portent. Et qu'ils n'aient pas honte de leurs origines, de leur couleur de peau ou du nom de famille qu'ils portent. C'est pas parce que je m'appelle tel nom, que je dois combler ça par un Eden Park ou autre chose. Là, wallah. On est ce qu'on est. Allah nous a créé comme ça. On a shkurullah. Parce que si le jeune, il commence à rentrer dans ce cercle vicieux, il va pas s'en sortir. Et ce sera une preuve qu'il développe un complexe d'infériorité qu'il a besoin de combler par des signes extérieurs de richesse, richesse qu'il ne possède pas d'ailleurs. Et qu'il oblige ses parents, et c'est une torture pour les parents de refuser une paire de vêtements ou de basket à un enfant. C'est difficile ça. Vos enfants, ils voient un paire de chaussures Adidas ou Nike, ils disent « Papa, je veux porter ça ». Tu dis qu'on ne peut pas, on n'a pas l'argent, je vais t'acheter chez tel endroit. Le cœur d'un papa ou d'une maman saigne intérieurement. Le fait de savoir que son enfant ne peut pas porter les mêmes vêtements que ses amis, ça fait mal au cœur, ça fait très mal. Mais il y a une éducation, il y a un juste milieu. Plus important, c'est de trouver un juste milieu. Et sur un plan personnel, je m'efforce au maximum pour que rien, il n'y a aucun vêtement de marque que mes enfants, ils ne portent pas les vêtements, même s'ils ont eu, parfois il y a des soldes, des promotions où c'est 60%, bon, on peut prendre, mais qu'ils ne donnent pas de la valeur aux vêtements parce qu'il y a un petit crocodile ou parce qu'il y a un tel truc. Non, c'est juste un vêtement. Basse. Ça, c'est très important. Ah, et de cette façon aussi, le cœur ne sera pas attaché au dunya. Parce que si dès l'enfance, le cœur est attaché au dunya, ça va être compliqué ensuite, hein, quand ils vont grandir. C'est un cercle vicieux. Là, ils aiment les vêtements de marque, ben ensuite, ils vont aimer les parfums de marque, ils vont aimer telle chose, et on ne va pas s'en sortir. Et ça deviendra, ils vont devenir des fils du dunya. Ils vont vouer un culte au plaisir du dunya de ce monde. Hein. Le prophète, alayhi salat wa salam, donc, il nous dit également, donc voilà le juste milieu. Mettre des vêtements corrects parce que quand Allah te donne, Allah aime voir son serviteur manifester, montrer les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Il n'y a pas de mal ça. Il n'y a pas de mal. On n'a pas à mettre des vêtements. Donc le troué ou rapier, sinon le juste milieu dans chaque chose. Ah, donc quand le prophète dit mangez, buvez, mettez des vêtements, mais le prophète rajoute également watasaddaqu. Et ça fait partie du shukr. Ça fait partie des remerciements vers Allah Azza wa Jal. Allah te donne, tu utilises, mais tu donnes également dans le chemin d'Allah. Normalement, il n'y a qu'une obligation, mais on devrait avoir une part de sadaqa régulièrement de notre salaire. Quel que soit le salaire. Pas forcément qu'on ait un très fort salaire. Celui qui a 4000 euros, 5000 euros de salaire, alhamdoulilah pour lui, ben, il faut qu'il tienne 50 euros, 60 euros tous les mois régulièrement. Celui qui a juste un SMIC, il a 1200 ou 1300 euros, il est capable de tirer 5 euros, 10 euros. Tout le monde peut tirer une petite aumône. Mais ça, c'est très important de le faire. Ça apportera de la baraka, de la bénédiction dans ce qui te reste. Et ça te permet d'être reconnaissant auprès d'Allah Azza wa Jal par rapport aux bienfaits qu'il t'a accordés. Un mois qui passe sans que tu donnes sadaqa, c'est mauvais. Il ne faut jamais se dire que la sadaqa, c'est l'action des riches. Il y a pas mal de hadiths et d'histoires des pieux prédécesseurs qui vont dans ce sens, mais on n'a pas le temps de tout raconter. Certains, lorsqu'ils allaient à la masjid, ils n'allaient pas à la masjid le matin pour Fajr sans avoir avec eux leur sadaqa journalier. Tous les jours, ils donnaient une aumône. Et quand ils n'avaient pas d'argent, ils amenaient un petit truc à manger. Il y a une histoire, je n'ai pas le nom de ce tabi'in. Une fois, il avait des oignons dans sa poche. Et c'était un grand savant. Et ses élèves disent, Yacher, pourquoi tu amènes ça? Et tout, il a dit que j'ai rien trouvé d'autre pour donner en aumône aujourd'hui que ça. Dire que c'était un principe, chaque jour qui commence, sachant qu'il n'y a pas un jour qui se lève sans qu'il y ait un ange qui lance l'appel, « Oh Allah, bénis la personne qui donne. » Et l'autre ange qui dit, « Ya Allah, détruit la personne qui retient, qui ne veut rien donner. » Donc, dans la mesure du possible, on essaie tous les jours de faire une action qui va dans ce sens, bien sûr, en fonction de nos moyens. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit également concernant le fait de manger, là on passe aux excès, la pire des choses qu'un être humain de Bin Adam peut remplir, c'est son ventre. Celui qui mange jusqu'à n'en plus pouvoir et puis il est comme ça là, il a presque du mal à respirer, il a besoin d'assistance respiratoire parce qu'il a trop mangé, ça c'est aïb, ça c'est une honte. Ça ne correspond pas à l'éthique du musulman. Il faut un juste milieu. Et le prophète dit que si quelqu'un mange, et il doit garder les trois tiers, c'est connu, thuluth, le tiers pour la nourriture, le tiers pour ce qu'il va boire, et le tiers, c'est pour respirer, pour l'air, d'accord? Et avec ce taqsim, cette façon de gérer, on se portera en bonne santé. Parce que une personne qui mange trop, est-ce qu'il peut être concentré dans la prière? Non. Quand on mange beaucoup, on a envie de dormir, ainsi de suite. Et c'est mauvais d'une façon générale pour la santé. Donc, tout ça, ce sont des conseils prophétique. Vous voyez comment est-ce que les hadiths, ça couvre toutes les facettes de la vie. Le spirituel, les relations commerciales, les relations avec la famille, avec les gens, ainsi de suite. Mais également notre façon de vivre et de consommer sont également régulées, coordonnées par les hadiths de le prophète alayhi salatu wassalam. Et on pourrait dire en conclusion que là, on est dans le mois de Ramadan. Si on parle des repas, en général, on mange un peu plus de le mois béni. Et on essaie de se faire plaisir. Il est tout à fait normal. Mais c'est l'occasion, c'est le moment d'inviter des gens à la maison pour manger. Dans la mesure du possible, on essaie d'inviter les personnes à la maison pour manger. Ou alors, si on ne peut pas le faire, amener un plat de nourriture pour quelqu'un. Ou, ce qu'on peut faire également, c'est aller rendre visite à des gens, mais pas que tu y vas pour manger. Tu amènes, tu dis à la personne, ce soir, ne cuisine pas. Sinon, on a un peu de mal à recevoir, parce que, quelles que soient les conditions et tout, quelle soit la raison, ben on prépare et on dit à la personne, ce soir, cuisine pas, nous on amène à manger. Tout ça, ce sont de bonnes actions. Prier, c'est une bonne action. Le salat au taraweh, c'est une bonne action. Que tu lises le Coran, c'est bien. Tu te réveilles dans la nuit, tu pries, c'est très bien. Tu donnes l'aumône, c'est très bien. Mais inviter les gens à manger chez toi, c'est une très bonne action. Et donner à manger aux gens, c'est une excellente action. Et si on peut contribuer au iftar, à la rupture du jeûne des jeûneurs, subhanallah, on a donné à manger, on a accompli cette action, mais en plus, on a l'équivalent de récompense du jeûne de la personne. C'est-à-dire qu'on a une porte de récompense magnifique qui est ouverte durant ce jeûne. Bien heureux et bien intelligent cette personne qui va cotiser ou qui va amener des choses à manger et qui va mettre des plateaux des jeûneurs, parce que celui qui va rompre son jeûne avec ce que tu as amené, bingo, tu as la journée de récompense de la personne. Imagine Rizal, mashallah, il passe une journée de piété du matin jusqu'au soir. S'il mange une date que j'ai amenée pour rompre son jeûne, j'ai la récompense de mon somme, j'ai également la récompense de sa journée de jeûne, sans que cela ne diminue ses récompenses à lui. Ça, c'est une rahmat d'Allah Azza wa Jal, et qui nous permet également de comprendre que venir en aide ou être proche de son prochain, c'est une action qui plaît à Allah Azza wa Jal. On avait assisté à un programme avec Cheikh Mohamed Patel, pour ceux qui connaissent, il est à Paris, il est à la Réunion en ce moment. Hier, pour les jeunes, il avait fait un tafsir magnifique du début de Al-Baqarah, lorsqu'Allah Azza wa Jal donne les caractéristiques et les sifats du croyant. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Magnifique tafsir qui dit. Là, on a les qualités des gens pieux, les muttaqins. Les muttaqins, c'est ceux qui croient à l'invisible, qui prient et qui donnent le monde. Pour qu'on réalise que si on veut se rapprocher d'Allah, ce n'est pas uniquement par le biais de la prière. Ce n'est pas uniquement par le biais de la prosternation. Pour se rapprocher d'Allah, il faut également être proche des gens. Ça a été cité juste après l'accomplissement de la prière. C'est-à-dire que pour réunir les qualités du muttaqi, de l'homme pieux, tu dois parfaire ta relation avec Allah Azza wa Jal. Tu pries, mais également tu dois te rapprocher des gens, tu dois être proche des gens, donner aux gens, et en réunissant ces deux qualités, tu te rapprocheras de la taqwa, tu te rapprocheras du cercle très fermé des muttaqin, des gens pieux. Et ça, c'est toute la perfection de notre religion, relation avec Allah Azza wa Jal, ensuite relation avec notre prochain. Et petite parenthèse également, toujours en rapport avec la nourriture. Vous voyez, quand c'est le moment de rompre le jeûne, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on n'est pas content? D'accord? Quand c'est le moment de manger, ou de jaffé, peu importe comme on dit, humainement, on est content. Tu vas manger, il y a du bonheur, il y a un plaisir. Et c'est pour ça qu'il faut amener, il faut se faire plaisir, il faut manger, ça ce sont des ni'ma. Et ça, ça nous rappelle un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit que le jeûneur a deux farhatan, il a deux moments de joie. Farhatun inda fitri. Ou comme a dit alayhi salatu wa salam, premier moment de joie, de bonheur pour le jeûneur, c'est lorsqu'il va rompre son jeûne. Et le deuxième moment de bonheur, c'est lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. Faisons en sorte que le moment où on rencontre Allah Azza wa Jal soit un moment de bonheur éternel et aussi encore plus de bonheur que lorsque nous allons rompre le jeûne. Vous voyez les deux, ces deux cas de figure que le Prophète nous donne, ça nous permet yuqarrib, ça nous permet de comprendre un petit peu l'étendue de ce bonheur. Parce que le premier point, c'est quelque chose qui nous interpelle et que nous vivons en tant qu'être humain. Rompre le jeûne, même avant de rompre le jeûne, quand tu sais que voilà, ce soir il y a tel menu qui est prévu, ainsi de suite, ça ne met pas un peu de joie dans le cœur? Quand tu connais que ce soir, il y a samoussa, il y a pizza, il y a... Moi, je demande aux enfants à la madrasa, tous les jours, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as mangé, pour savoir, pour qu'ils parlent, pour qu'ils expliquent. Et on voit, on entend qu'ils parlent de ce qu'ils vont manger ce soir, qu'est-ce que maman a prévu, ils sont contents. Ce sont là des... C'est de la nature humaine. Ben, imaginez que le moment où on va rencontrer Allah Azza wa Jal, c'est un moment qui va nous remplir de joie. Faisons en sorte que le moment où on rencontre Allah Azza wa Jal, ce soit le plus beau moment. Le plus beau moment de notre vie, Inch'Allah. Après, il y a notre mas'ala concernant le fait de ne pas manger tout ce qu'on veut, le fait de se contrôler un petit peu. Mais ça, on verra, Inch'Allah, peut-être dans une prochaine fois, le prochain discours, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous t'offre de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah Rabbul Izza nous accorde encore plus de bienfaits, que jamais nous ne manquons de quoi que ce soit, mais que nous sachions être reconnaissants dans ce qu'il nous a donné en faisant preuve de juste milieu, pas de gaspillage, en partageant également et en faisant l'intention que quand on mange, quand on boit, notre niya, c'est d'utiliser cette force pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous accorde la bénédiction. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Zakum khair.